Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui à la fois la fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et celle du sixième dimanche après la Pentecôte. C'est la fête de notre Seigneur qui prime, donc c'est la messe du précieux sang avec mémoire et dernier évangile du sixième dimanche après la Pentecôte. Avant de vous parler un petit peu du magnifique épître, d'un magnifique épître de Saint Paul aux Hébreux, choisi par la Sainte Église pour la fête du précieux sang, je voudrais terminer cette étude que nous faisons ensemble des dons du Saint-Esprit. Donc nous avons déjà vu le don de conseil, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de force, le don de science, le don de piété. Il reste maintenant à couvrir la crainte de Dieu. Monseigneur Lefebvre avait l'habitude de nous dire, et il a bien raison, que le crime de l'Église de Vatican II, c'était d'abord d'avoir détruit complètement dans l'esprit des catholiques le don de crainte de Dieu. On ne craint plus Dieu, ça veut dire qu'on ne craint plus d'offenser Dieu. Et si on ne craint plus d'offenser Dieu, eh bien, on ne craint plus de ne plus aimer Dieu. Quelqu'un qui offense constamment quelqu'un, une autre personne qu'il prétend aimer, ne peut pas dire qu'il aime vraiment cette personne. Si un époux prétend aimer son épouse, mais est constamment en train de l'offenser d'une façon ou d'une autre, par ses faits, ses gestes ou ses paroles, eh bien, il est absolument évident que dans ce cas-là, son amour pour elle est faux. Alors, il faut bien comprendre ce qu'est le don de crainte de Dieu, parce que la Sainte Écriture nous dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Pas de crainte de Dieu, pas de sagesse. La crainte de Dieu ne consiste absolument pas à avoir peur de Dieu, comme pensent beaucoup de personnes. Comment pourrions-nous avoir peur de Dieu, qui est le bon Dieu, qui est plein de miséricorde pour le pécheur repentant? Par contre, ceux qui refusent de se convertir, ceux qui refusent d'être pécheur repentant, le deuxième mot est le mot important évidemment, ceux qui refusent de regretter leur péché, alors oui, ceux-là doivent et peuvent craindre Dieu, craindre son jugement. Alors mes bien chers frères, oui, il faut se rappeler ces choses-là. J'ai eu le malheur, la douleur, le 21 juin de perdre mon père. Malheureusement, mes parents ne sont pas du tout traditionnalistes et j'ai dû assister pour la première fois de ma vie, de façon passive, à un office plus protestant que catholique, totalement moderniste pour l'enterrement de mon père. Eh bien, on sentait très bien que cette notion de crainte de Dieu avait totalement disparu de l'esprit des pauvres prêtres qui concélébraient cette espèce d'office protestant. En l'honneur de mon père, pas une seule seconde on a parlé, par exemple, de l'âme du purgatoire, des âmes du purgatoire, la nécessité de prier pour les âmes du purgatoire. Alors, mes chers frères, il faut comprendre justement ce qu'est le don de crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu n'est pas, encore une fois, de craindre Dieu, mais de craindre d'offenser Dieu. Et comment offense-t-on Dieu? On offense Dieu par le péché. Donc, le don de crainte de Dieu, ça consiste à craindre d'offenser Dieu par le péché. Donc si le don de crainte de Dieu disparaît dans une âme, c'est la notion de péché elle-même qui va disparaître de cette âme. C'est pour cela que si on détruit le don de crainte de Dieu, et c'est ce qu'a fait l'Église de Vatican II dans les âmes, eh bien si le don de crainte de Dieu est éliminé, les âmes vont pécher et avaler l'iniquité comme l'eau. Justement parce qu'ils ne réalisent plus du tout que Dieu est un être infini, parfait, qui a des droits sur nous. Donc si la crainte de Dieu saute, c'est l'esprit révolutionnaire de liberté, d'égalité, de fraternité qui va rentrer dans nos âmes, et ce qui fait que l'âme va se présenter devant Dieu en disant « Je ne servirai pas ». Alors voyons un petit peu ce que dit le catéchisme de Saint Pie X sur le don de crainte de Dieu. Voilà la définition donnée par le pape Saint Pie X dans ce catéchisme écrit par lui en 1910. La crainte de Dieu est un don qui nous fait respecter Dieu et craindre d'offenser sa divine majesté et qui nous détourne du mal en nous portant au bien. Donc, le don de crainte de Dieu, si vous voulez, c'est un don qui va nous faire aimer Dieu, comme tous les autres dons du Saint-Esprit, mais celui-là de façon plus spécifique. Parce que si j'aime Dieu, je vais le respecter. Si je respecte Dieu, je vais craindre d'offenser sa divine majesté. Et si je crains d'offenser sa divine majesté, je vais éviter le péché. Et si j'ai le malheur d'être dans le péché, alors je vais me dépêcher d'en sortir par la grâce d'une bonne confession plus tôt. Si au contraire je n'ai plus la crainte de Dieu, je n'aurai plus l'amour de Dieu, je n'aurai plus le respect pour notre Seigneur Jésus-Christ, je n'aurai plus la crainte d'offenser le bon Dieu par le péché, et donc je vais vivre dans le péché jusqu'au cou. Voilà pourquoi le démon, l'Église de Vatican II, ont détruit la crainte de Dieu. Parce que si la crainte de Dieu disparaît dans une âme, cette âme va commencer à pécher sans craindre les conséquences du péché. Vous voyez, ça m'a beaucoup frappé dans cette espèce de parodie, de cérémonie pour les morts, auquel a eu droit malheureusement mon père pour son enterrement. Je me rappelle très bien le catéchisme de mon enfance. Quand j'avais 5 ou 6 ans, ma mère, qui à l'époque avait la foi catholique, ma mère m'expliquait, après la mort, après la séparation de l'âme et du corps, il y a 4 possibilités. Le ciel, l'enfer, les lames pour les enfants morts sans baptême, et le purgatoire. On sent très bien que dans le monde moderne, dans l'Église de Vatican II, eh bien, 3 de ces choses ont complètement disparu. Après la mort, l'âme monte au ciel. Point final, d'après les modernistes. Donc on a éliminé l'enfer, on a éliminé les limbes, on a éliminé le purgatoire. Pourquoi ? Parce qu'on a éliminé justement la crainte de Dieu. Donc pour remettre les âmes dans le bon chemin qui mène vers le bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire ? Remettre dans ces âmes l'esprit de crainte de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas mettre la peur. La peur dans une âme. N'oublions pas que le démon est le singe de Dieu. Donc, puisque le bon Dieu nous amène à son amour par sa crainte, la crainte salutaire des conséquences du péché, le démon va faire exactement l'inverse et détruire la crainte de Dieu pour détruire l'amour de Dieu et entraîner à la place de l'amour de Dieu, entraîner l'amour du péché. La Sainte Écriture nous dit, c'est un des psaumes qui dit « Quid illegitis dominum audite malum » Celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Alors, posons-nous cette question. Est-ce que je suis convaincu, justement par ce don de crainte de Dieu, est-ce que je suis convaincu que le péché est l'unique vrai mal ? Est-ce que je suis convaincu que la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de perdre mon amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est de perdre l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, de perdre cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ, union qui consiste en l'état de grâce. Si le démon arrive à me couper de mon maître, de mon créateur, de mon rédempteur par le péché, alors il a détruit en moi la crainte de Dieu. Il ne faut pas oublier, ne jamais oublier ça, la crainte de Dieu amène à l'amour de Dieu. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, je n'ai pas l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il faut dire aux modernistes qui vous disent que toute l'Église traditionnelle, c'est une Église fondée sur la crainte. Ce n'est pas du tout une Église fondée sur la crainte, c'est une Église fondée sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on a devant nous notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme devant nous, qu'est-ce qu'on fait ? On tombe à genoux. On demande pardon. On essaie de retrouver l'état de grâce si je l'ai perdu, si on l'a perdu, et puis on dit au bon Dieu qu'on l'aime. Peut-on dire au bon Dieu qu'on l'aime si on vit tranquillement dans le péché ? Ce n'est pas possible. On voit aussi un exemple de cette extraordinaire miséricorde du bon Dieu pour nous, donc l'exaltation de ce don de crainte dans l'évangile que l'Église propose, Saint Marc au chapitre 8, que l'Église propose pour le sixième dimanche après la Pentecôte. Il y a cette parole magnifique, Misereor super turbam, j'ai pitié de cette foule. Ça veut dire, j'ai pitié de ces âmes parce que ça fait plusieurs jours qu'ils me suivent, ils n'ont rien à manger. Évidemment, il faut comprendre aussi ces choses sur le plan surnaturel. Voilà ces catholiques qui essaient de me suivre, ils sont dans un monde complètement pourri, ils ont contre eux toute l'église de Vatican II qui ne cherche qu'une seule chose, c'est à détruire les âmes. J'ai pitié de cette foule. Sachons que notre Seigneur Jésus-Christ a pitié de nous et donc va nous donner, va me donner toutes les grâces dont j'ai besoin pour tenir le coup sur le plan surnaturel. Donc il ne faut pas se décourager si nous nous trouvons avec pratiquement plus rien. Il ne faut pas se décourager si l'Église si vous voulez, est descendue littéralement au niveau d'une simple institution, je dirais, qui est encore cachée dans les familles. Nous sommes descendus, si vous voulez, au niveau de la pratique catholique, la véritable pratique catholique au niveau de quelques familles à droite à gauche dans le monde entier qui pratiquent encore cette foi. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous aime, est obligé de nous donner les grâces dont nous avons besoin. Donc ne jamais, jamais se décourager. C'est ça la conséquence du don de crainte de Dieu. Si je crains notre Seigneur Jésus-Christ, je craindrai par-dessus tout de l'offenser. Si je crains d'offenser Dieu, avec la grâce du bon Dieu, je ne vais pas l'offenser. Donc je garderai l'état de grâce. Et si le bon Dieu vient me chercher sans prévenir, eh bien je serai capable de suivre notre Seigneur Jésus-Christ au ciel avec sa grâce. Et me dira, venez à moi, bon serviteur et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle dans les petites choses. Venez posséder le paradis qui a été préparé pour vous et pour les anges. Donc, rappelons-nous ces choses-là. Le bon Dieu a pitié de nos âmes. Et la fête d'aujourd'hui, la fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rappelle cette chose. La Sainte Église nous donne une épître magnifique de saint Paul aux Hébreux, au chapitre 9. Alors, je vais vous lire tout simplement certains passages de cette épître magnifique. Le Christ étant venu comme pontife des biens futurs, a traversé un tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient point à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et l'aspersion faite avec la cendre d'une génisse sanctifient ceux qui sont souillés de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit Saint s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Il est le médiateur d'un nouveau testament, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des iniquités commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés reçoivent maintenant la promesse de l'héritage éternel. Comme ce texte est magnifique, mes bien chers frères. Donc si le sang des boucs et des taureaux avait déjà une vertu purificatrice dans l'Ancien Testament, combien plus le sang de notre Seigneur Jésus-Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Et où rencontrons-nous ce sang? Est-ce qu'il nous faut faire des milliers de kilomètres pour rencontrer ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est la Sainte Messe, mes bien chers frères. La Sainte Messe qui n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Vous voyez, comme ces fêtes, cette magnifique fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ouvre le mois du précieux sang, le mois de juillet, eh bien, qui ouvre ce mois de juillet, nous rappelle justement l'importance d'être lavé par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme les Hébreux qui étaient en Égypte au moment où ils vont quitter l'Égypte, où ils étaient maintenus en esclavage, ils vont, sur l'ordre de Dieu, ils vont badigeonner le pourtour de leur porte d'entrée du sang de l'agneau. Ce qui fait que lorsque l'ange prévaricateur va descendre pour tuer tous les premiers-nés selon l'ordre de Dieu, eh bien il va éviter soigneusement les maisons qui sont protégées par le sang de l'agneau. Eh bien, ce sang de l'agneau représente le sang d'un autre agneau qui va arriver bientôt. Et ce sang d'un autre agneau, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Et ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, bien nous le trouvons justement dans le sacrifice de la messe, renouvellement non sanglant des sacrifices du calvaire. Et il faut justement, je dirais, comprendre que la Sainte Messe nous aide à badigeonner la porte d'entrée de notre âme de ce sang rédempteur, du sang divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang du corps et du sang de notre, ce sang du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui justement, à cause de son union avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, bien justement, ce corps et ce sang, justement, vont protéger notre âme. Et le démon qui veut entrer dans notre âme pour la détruire, pour détruire dans notre âme le don de crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il voit à l'entrée de l'âme? Il voit l'âme qui est protégée par ce badigeonnage spirituel, en quelque sorte, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ trouvé pendant la Sainte Messe. Notre âme est protégée par le sang rédempteur. Bien de même que l'ange prévaricateur ne pouvait pas rentrer pour tuer les premiers-nés dans les maisons des Hébreux, parce que ces maisons étaient protégées par le sang de l'agneau. Combien plus nos propres maisons, c'est-à-dire nos âmes, qui sont protégées par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau divin, qui est infiniment supérieur à l'agneau représentatif du Christ à venir. Combien plus ce sang divin que nous avons en notre âme doit nous protéger contre le démon. Si le démon cherche à rentrer dans notre âme, s'il voit ce sang divin, il va tout de suite s'enfuir, parce qu'il sait que cette maison ne lui appartient pas. Et donc c'est la première chose qu'il nous faut vérifier. Si j'ai la crainte de Dieu, est-ce que j'ai la protection de ce sang divin? Est-ce que le pourtour de la porte d'entrée de mon âme est protégé par ce sang? Si oui, alors je n'ai rien à craindre. Sinon, eh bien, les choses ne vont plus du tout. Donc, mes bien chers frères, l'amour de la messe, l'amour du sacrifice de la messe doit protéger notre âme. Quelqu'un qui a vraiment l'amour de la Sainte Messe, qui comprend l'importance de la Sainte Messe, a un moyen de protection extraordinaire pour son âme. Et c'est ce que l'Église de Vatican II a parfaitement compris. L'Église de Vatican II, menée par le démon, a compris que pour détruire les âmes, il fallait détruire l'amour de la Sainte Messe. Comment peut-on avoir un amour pour cette espèce de bouillie pour chat qui est ce qu'on appelle la Nouvelle Messe, qui n'est même plus une messe, qui n'est plus rien du tout? Alors, justement, utilisons cette fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ au 1er juillet. Demandons au bon Dieu, justement, qu'il mette en nous, qu'il nous donne justement cet amour de la messe. Une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. C'était un exemple qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé, que j'ai souvent donné, mais je le donne puisque c'est le sujet du jour. Lorsque les prêtres dominicains et franciscains qui étaient avec Cortés sont arrivés au Mexique autour des années 1530, eh bien, ils ont évidemment vu le carnage fait par cette fausse religion des Aztèques qui tuait des dizaines de milliers d'innocents, d'enfants, de jeunes gens, de jeunes hommes, de jeunes femmes, et qui immolaient à leur faux dieu, le soleil, qui immolaient ses victimes. Il y en avait des dizaines de milliers. Pour l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan, près de Mexico, il y a 70 000 victimes humaines comme ça, massacrées pendant 3 jours de festivités. Les prêtres de cette fausse religion ouvraient le thorax des pauvres victimes, arrachaient le cœur et l'offraient à leur faux dieu. Eh bien, lorsque les missionnaires sont arrivés, surtout après l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe en 1531, à Juan Diego, ils ont expliqué à ces Aztèques, qui étaient encore imprégnés de leurs coutumes sauvages, vous n'avez plus besoin maintenant d'offrir au soleil le sang des hommes, parce que Dieu lui-même a offert son propre sang. Et ils ont utilisé justement ce carnage, en quelque sorte, de la fausse religion pour expliquer la grandeur de la religion catholique. Et ils ont expliqué, ils ont dit, voilà, à chaque fois que vous assistez à la Sainte Messe, eh bien, vous avez le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui descend sur l'autel. Alors, vous n'avez plus besoin, justement, des faux dieux de la culture ancienne des Aztèques. Oui, mais bien, chers frères, comme ces choses sont importantes, ayez l'amour de la messe. Donnez à vos enfants l'amour de la messe, de la Sainte Messe. Et si vous donnez à vos enfants l'amour de la Sainte Messe, vous allez leur donner, par voie de conséquence, la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu sera comme une armure, littéralement, pour protéger l'âme de vos enfants et votre âme propre des attaques du démon. Le démon ne peut pas entrer dans une maison qui est protégée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous la comparaison que je vous ai donnée tout à l'heure avec le sang de l'agneau et des Hébreux qui allaient quitter l'Égypte. Ils sont protégés par le sang de l'agneau, ils perdent leur esclavage. Nous sommes dans l'esclavage du péché, mais si nous avons notre âme protégée par le sang divin de notre Seigneur Jésus-Christ, répandu sur l'autel sous les apparences du pain et du vin, et si nous avons ce sang justement qui nous protège, alors à ce moment-là, mes bien chers frères, nous avons Dieu avec nous. Et si nous avons Dieu avec nous, nous n'avons plus rien à craindre. Et nous comprendrons à ce moment-là la laideur du péché. Et en comprenant la laideur du péché, nous augmenterons en nous le désir d'éviter le péché. Si nous avons le malheur de le commettre, nous irons nous précipiter au confessionnal pour retrouver la grâce sanctifiante et retrouver justement l'amour du bon Dieu. Demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie, pendant ce mois du précieux sang qui suit, le mois du Sacré-Cœur, demandons à notre Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne cet amour justement pour le sang de notre Seigneur. Que nous sachions, que nous pensions à protéger la porte de notre âme justement avec ce sang rédempteur. Je conseille beaucoup à toutes les familles qui le peuvent pendant ce mois de juillet de réciter tous les jours, après votre chapelet par exemple, c'est ce que je fais moi-même, après votre chapelet du soir, eh bien, lisez les magnifiques litanie du précieux sang. Demandez au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous aider justement à éviter le péché, sans oublier le lien évidemment qui existe entre le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le sang de notre Sainte Vierge Marie. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ était dans le sein de notre Seigneur Vierge Marie le même sang littéralement que le sang de notre Sainte Vierge Marie. Le sang de notre Sainte Vierge Marie et le sang de Dieu sont intimement unis parce que le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ sont intimement unis. Alors allons vers notre Mère chérie, notre Mère du ciel qui est au pied de la croix, qui nous présente le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui ouvre son corps. C'est l'évangile du jour, l'évangile de Saint Jean, l'évangile de la fête du précieux sang. Justement, qui nous dit bien toutes ces choses. Les soldats qui viennent à Jésus pour briser ses jambes, qui voient qu'il est déjà mort, alors ils ne brisèrent pas les jambes, mais un des soldats va tout simplement ouvrir le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce cœur sacré vont sortir l'eau et le sang. L'eau du baptême, le sang de la Sainte Messe. Demandons, mon Dieu, mes bien chers frères, toutes ces grâces dont nous avons tous besoin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.